faute d'argent, ses douleurs non pareilles. Toutefois, il avoua 63 manières d'en trouver toujours à son besoin, dont la plus honorable et la plus commune estoie par façon le Larossin furtivement fait. Rabelais, livre 2, chapitre 16. Cela pinçait sec ce soir-là. Il faisait un temps clair de nouvelle lune. La fine corne d'argent pâle, translucide encore au dernier rayon du soleil, prédisait une de ces nuits brutales et franches qui vous rasent les feuilles, les dernières feuilles, claquant sur leurs branches désolées comme les grelots fêlés des cavales du vent. Bouleau, frileux, avait rabattu sur ses oreilles son béret bleu. Tintin avait laissé les oreillères de sa casquette. Les autres aussi s'ingéniaient à lutter contre les épines de la bise. Seul le braque, nu-tête, tanné encore du soleil d'été, la blouse ouverte, faisait fi de ses froidures de rien du tout, comme il disait. Les premiers arrivés à la carrière attendirent les retardataires, et le chef chargea Tétas, Tigibus et Guignard d'aller un moment surveiller la lisière ennemie. Il conféra à Tétas les pouvoirs de chef et lui dit « Dedans un quart d'heure, quand on sifflera, si t'as rien vu, tu monteras sur le chêne à Camus, et si tu ne vois rien encore, c'est qu'ils ne viendront sûrement pas. Alors vous reviendrez nous rejoindre au camp. » Les autres dociles acquiescèrent, et pendant qu'ils allaient prendre leur quart de garde, le reste de la colonne monta au repaire de Camus, où l'on s'était déshabillé la veille. « Tu vois bien, vieux, constata Bouleau, qu'on n'aurait pas pu se déshabiller aujourd'hui. »« C'est bon, dit le braque. Du moment qu'on a décidé de faire autre chose, il n'y a pas à revenir sur ce qui est passé. » On était vraiment bien dans la cachette à Camus. Du côté de Velleran, au couchant et au midi, et du côté du bas, la carrière à seyel ouvert formait un rempart naturel qui mettait à l'abri des vents de pluie et de neige. Des autres côtés, de grands arbres laissant entre eux et les buissons quelques passages étroits arrêtaient les vents du nord et d'est pas chauds pour un liard ce soir-là. « Asseyons-nous, » proposa le braque. Chacun choisit son siège. Les grosses pierres plates s'offraient d'elles-mêmes. Il n'y avait qu'à prendre. Chacun trouva la sienne et regarda le chef. « C'est donc entendu, » articula ce dernier, rappelant brièvement le vote du matin, « qu'on va se cotiser pour avoir un trésor de guerre. » Les 10 panés protestèrent unanimement. Guerreillas, ainsi nommé parce qu'à côté du sien le regard de Guignard était d'un Adonis et que ses gros yeux ronds lui sortaient effroyablement de la tête, prit la parole au nom des 100 le sou. C'était le fils de pauvre bougre de paysan qui peinait du 1er janvier à la Saint-Sylvestre pour nouer les deux bouts et qui, naturellement, n'offraient pas souvent à leurs rejetons de l'argent de poche pour ses menus plaisirs. Le braque, fit-il, c'est pas bien, tu fais honte aux pauvres. T'as dit qu'on était tous égaux, et tu sais bien que ça n'est pas vrai, que moi, que Zozo, que Bati et les autres, nous ne pourrons jamais avoir un radis. Je sais bien que t'es gentil avec nous, que quand t'achètes des bonbons, tu nous en donnes un de temps en temps, et que tu nous laisses des fois lécher tes raies de chocolat et tes bouts de réglisse. Mais tu sais bien que si par malheur on nous donne un rond, le père ou la mère le prennent aussitôt pour acheter des fourbis dont on ne voit jamais la couleur. On te l'a déjà dit ce matin, il n'y a pas moyen qu'on nous paye. Alors on est des galeux. C'est pas une république, ça, non, et je ne veux pas me soumettre à la décision. Nous non plus, firent les 9 autres. J'ai dit qu'on arrangerait ça, tonna le général, et on l'arrangera, non, ou bien je ne suis plus le braque, ni chef, ni rien, nom de Dieu. Écoutez-moi, tas d'andouilles, puisque vous ne savez pas vous dégouiller tout seul. Croyez-vous qu'on m'en donne à moi des ronds, et que le vieux ne me les chippe pas, lui aussi, quand mon parrain ou ma marraine ou n'importe qui vient boire un litre à la maison et me glisse un petit ou un gros sou? Ah oui, si j'ai pas le temps de me trotter assez tôt et dire que j'ai acheté des billes ou du chocolat avec le sou qu'on m'a donné, on a bientôt fait de me le raser. Et quand je dis que j'ai acheté des billes, on me les fait montrer, parce que si c'était pas vrai, on me le ferait renaquer, le sou. Et quand on les a vus, pan, une paire de gifles, pour m'apprendre à dépenser mal à propos des sous qu'on a tant de mots à gagner. Quand je dis que j'ai acheté des bonbons, j'ai pas besoin de les montrer, on me fout la torgnole avant, en disant que je suis un dépensier, un gourmand, un goulu, un goinfre et je ne sais quoi encore. Voilà. Eh bien, il faut savoir se débrouiller dans la vie du monde, et je vais vous dire comment et qu'il faut s'y prendre. Je parle pas des commissions que tout le monde peut réussir à faire pour la servante du curé ou la femme du père Simon. Ils sont si rapia qu'ils ne se fendent pas souvent. Je parle pas non plus des sous qu'on peut ramasser au baptême et au mariage, c'est trop rare, il n'y a pas à compter dessus. Mais voici ce que tout le monde peut faire. Tous les mois, Le pâtier s'amène sur la levée de granges de fricots, et les femmes lui portent les vieux chiffons et leurs peaux de lapin. Moi, je lui donne des os et de la ferraille, les gibus aussi. Pas vrai, grand gibus?
Oui.
Contre ça, il nous donne des images, des plumes dans un petit tonneau, des décalcomanies ou bien un sou ou deux. Ça dépend de ce qu'on a. Mais il n'aime pas donner des ronds. C'est un sale gripsou qui nous colle toujours des saloperies qui ne décalquent pas, contre de bons gros os de jambon et de la belle ferraille. Et puis ces décalcomanies, ça ne sert à rien. Il n'y a qu'à lui dire carrément selon ce qu'on porte, je veux un rond ou deux, même trois s'il y a beaucoup de fourbis. S'il dit non, on n'a qu'à lui répondre, mon vieux t'aura peau de zébi, et remporter son truc. Il veut bien vous rappeler ce sale juif, là, allez. Je sais bien que les os et la ferraille, il n'y en a pas des tas. Mais le meilleur, c'est de chiper les pattes blanches. Elles valent plus cher que les autres, et lui vendre le prix et au poids.
C'est pas commode chez nous, objecta Guerroyas. La mère a un grand sac sur le buffet et elle fourre tout dedans.
T'as qu'à tomber sur son sac et en faire un petit avec.
C'est pas tout.
Vous avez des poules.
Tout le monde a des poules.
Eh bien, un jour, on chipe un œuf dans le nid. Un autre jour, un autre. Deux jours après, un troisième. On y va le matin avant que les poules aient toutes pondues. Vous cachez bien vos œufs dans un coin de la grange, et quand vous avez votre douzaine ou votre demi-douzaine, vous prenez bien gentiment un panier, et comme si on vous envoyait en commission, vous les portez à la mère Maillot. Et elle les paye quelquefois en hiver jusqu'à 24 sous la douzaine. Avec une demi, il y a pour toute l'année d'impôts.
C'est pas possible chez nous, affirma Zozo. Ma vieille est si tellement à cheval sur ses gélines que tous les soirs et tous les matins, elle va leur tâter au cul pour sentir si elles ont l'œuf. Elle sait toujours combien elle en aura le soir. S'il en manquait un, ça ferait un beau raffut dans la cambuse.
Il y a encore un moyen qui est le meilleur. Je vous le recommande à terre tous.
Voilà, c'est quand le père prend la cuite.
Je suis content, moi, quand je vois qu'il graisse ses brodequins pour aller à la foire à Versailles ou à Baume.
Il dîne bien là-bas avec les Montagnons ou les Pays-Bas. Il boit sec, des apéritifs, des petits verres, du vin bouché. En revenant, il s'arrête avec les autres à tous les bouchons. Et avant de rentrer, il prend encore l'absinthe chez Fricot. Ma mère va le chercher. Elle n'est pas contente, elle grogne. Il s'engueule chaque fois. Puis il rentre et elle lui demande combien qu'il a dépensé. Lui, il l'envoie promener en disant qu'il est le maître et que ça ne la regarde pas. Et puis il se couche et fout ses habits sur une chaise. Alors moi, pendant que la mère va fermer les portes et éclairer les bêtes, je fouille les poches et la bourse. Il ne sait jamais au juste ce qu'il y a dedans. Alors c'est selon. Je prends 2 sous, 3 sous, 4 sous. Une fois même, j'ai chipé 10 sous. Mais c'est trop et j'en reprendrai jamais autant parce que le vieux s'en est aperçu.
Alors il t'a foutu la peignée, mit Tintin.
Penses-tu? C'est la mère qui a reçu la danse. Et il a cru que c'était elle qui lui avait refait sa pièce. Et elle lui a passé quelque chose comme engueulade.
Ça, c'est vraiment un bon truc, convint Boulot.
Qu'en dis-tu, Batchi?
Je dis moi que ça ne servira à rien du tout, le truc de Lebrac, parce que mon père ne se saoule jamais.
Jamais ! S'exclama en chœur toute la bande étonnée.
Jamais, reprit Batty d'un air navré.
Ça, fit Lebrac, c'est un malheur, mon vieux.
Oui, un grand malheur, un vrai malheur, et on n'y peut rien.
Alors ?
Alors t'as carogné quand t'iras en commission.
Je m'explique. Quand tu as une pièce à changer, tu cales un sou et tu dis que tu l'as perdu.
Ça te coûtera une gifle ou deux, mais on n'a rien pour rien, on se bat monde. Et puis on gueule avant que les vieux ne tapent. On gueule tant qu'on peut, ils n'osent pas taper si fort.
Quand c'est pas une pièce, par exemple, quand c'est de la chicorée que tu vas acheter, il y a des paquets à 4 sous et à 5 sous. Eh bien, si t'as 5 sous, tu prends un paquet de 4 sous et tu dis que ça a augmenté. Si on t'envoie acheter pour 2 sous de moutarde, tu n'en prends que pour un rond et tu racontes qu'on ne t'a donné que ça.
Mon vieux, on ne risque pas grand-chose. La mère dit que l'épicier est un filou et une fripouille. Et cela passe comme ça.
Et puis enfin, à l'impossible, personne n'est tenu. Quand vous aurez trouvé des sous, vous paierez. Si vous ne pouvez pas, tant pis. En attendant, on s'arrangera autrement.
Nous avons besoin des sous pour acheter du fourbi. Eh bien, quand vous vous trouverez un bouton, une agrafe, un cordon, un lastique, de la ficelle à rafler, foutez-les dedans votre poche et aboulez ici pour grossir le trésor de guerre. On estimera ce que cela vaut, en tenant compte que c'est du vieux et pas du neuf. Celui qui gardera le trésor tiendra un calepin sur lequel il marquera les recettes et les dépenses. Mais ce serait bien mieux si chacun arrivait à donner un sou. Peut-être que plus tard on aurait des économies, une petite cagnotte quoi, et qu'on pourrait se payer une petite fête après une victoire.
Ce serait pas tant ça, prouva Tintin. Des pains d'épices, du chocolat, des sardines.
Trouvez d'abord les ronds, hein, répartit le général. Voyons, il faut être bien nouille après tout ce que je viens de vous dire pour ne pas arriver à dégoter un radis tous les mois.
C'est vrai, approuva le cœur des possédants.
Les purotins, enflammés par les révélations de Lebrac, acquiescèrent cette fois la proposition d'impôt et jurèrent que pour le mois prochain ils remueraient le ciel et la terre pour payer leurs cotisations. Pour le mois courant, il s'acquitterait en nature et remettrait tout ce qu'il pourrait accrocher entre les mains du trésorier.
Mais qui serait le trésorier ? Le braque et Camus, en qualité de chef et de sous-chef, ne pouvaient remplir cet emploi. Gambette, manquant souvent l'école, ne pouvait lui non plus occuper ce poste. D'ailleurs, ses qualités de lièvre agile le rendaient indispensable comme courrier en cas de malheur. Le braque proposa à Lacrique de se charger de l'affaire. Lacrique, qui était bon calculateur, il écrivait vite et bien. Il était tout désigné pour cette situation de confiance et ce métier difficile. « Je ne peux pas, » déclina Lacrique. « Voyons, mettez-vous à ma place. Je suis le collier le plus près du bureau du maître. Et à tout moment, il voit ce que je fais. Quand sait-il alors que je pourrais tenir mes comptes ? C'est pas possible. Il faut que le trésorier soit dans les bandes du fond. C'est Tintin qui doit l'être. »« Tintin, » fit le braque. « Oui, après tout, mon vieux. C'est toi qui dois prendre ça, puisque c'est la Marie qui viendra recoudre les boutons de ceux qui auront été faits prisonniers. » « Ouais, il n'y a que toi. »« Oui, mais si je suis pris, moi, par les Vélerons, tout le trésor sera foutu. »« Alors tu ne te battras pas. Tu resteras en arrière et tu regarderas. »« Faut bien savoir des fois faire des sacrifices, ma vieille branche. »« Oui, oui, Tintin trésorier !» Tintin fut élu par des acclamations. Et comme tout était réglé ou à peu près, on alla voir au gros buisson ce que devenaient les trois sentinelles que, dans la chaleur de la discussion, on avait oublié de rappeler. Tétas n'avait rien vu et ils blaguaient en fumant des tiges de clématite. On leur fit part de la décision prise. Ils approuvèrent et il fut convenu que dès le lendemain, tout le monde apporterait à Tintin sa cotisation, en argent ceux qui pourraient et en nature les autres.